Philippiens 2, s'il vous plaît. Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le bon vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Allons au chapitre 3. Verset 15, Philippiens 3, 15. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Merci.
Alors, bon matin à chacun. Nous allons tourner dans la parole de Dieu. Gardez vos Bibles ouvertes. On va aussi glaner un petit peu dans la parole. Je voudrais commencer par m'excuser. La semaine passée, j'ai inversé les statistiques. J'ai fait mourir un paquet de femmes avant son temps. C'est l'inverse. Alors, que le Seigneur nous guide dans sa parole aujourd'hui. En fin de compte, mon titre, c'est « Christ est notre modèle ». Et c'est une série, ça, que je suis en train de refaire, que j'avais fait des années 80, début 90. En fin de compte, c'est quatre messages que j'ai essayé de un peu entrer ensemble. Et, Christ est ma vie, Christ est mon modèle, Christ est mon but, Christ est ma toute suffisance. C'est quatre choses qui sortent de Philippiens. Dans un contexte de joie, dans un contexte où ce que la joie, on peut dire vraiment que ça ne vient pas des circonstances. Paul est en prison, on l'a vu la semaine passée. Il y a tant de nouvelles, il ne peut pas être relâché. Il y a Philippe, hein, l'église de Philippe, qui est une église qui l'aime, une église qui le soutenait financièrement, une église qui est soucieuse de ce que Paul est en train de vivre. On a une église aussi, dans le chapitre 4, où ce qu'on voit que, chapitre 4, versets 1 et 2 et 3 et 4, on voit qu'il y a des conflits dans cette église-là, mais il y a de la joie partout. On voit aussi qu'on est rappelé qu'on est citoyen des cieux, dans le chapitre 3, 20. Et on voit dans 4, 4, le cantique qu'on chantait dans les camps, hein, c'est quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Hein? On le chante souvent, ça? Chantent-tu encore d'un camp? Ça fait des années que je n'ai pas été d'un camp, là, vraiment, avec les jeunes. Là. Ils chantent-tu encore, ça? Ils ne chantent plus. Fait que tout le monde est triste. Au moins, quand on chante ça, on a l'air bien heureux, bien joyeux. Alors, nous autres, on le chantait quand on était jeunes, je me rappelle. Et puis là, on tapait sur la table avec nos fourchettes, nos cuillères, puis tout le kit. C'était bien le fun. Alors, un contexte vraiment difficile. Aucune raison de se réjouir. Aucune raison de déborder de toutes sortes d'émotions de joie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit dans cette épître, qui est extrêmement personnelle, comme je disais la semaine passée, on voit des termes comme mes bien-aimés, le je, frère, bien-aimé, etc. C'est vraiment, vraiment un lien entre Paul et l'Église de Philippe, un lien extrêmement étroit, extrêmement beaucoup d'amour, beaucoup de soucis pour cette Église qui est fidèle au Seigneur. Et l'apôtre va ici nous écrire. Et c'est pour cela que la semaine passée, à fin de compte, Christ est notre vie. On a dit, à fin de compte, s'il n'y a pas de dignité dans la manière que nous parlons, nous agissons, les choses que nous faisons, s'il n'y a pas de dignité, s'il n'y a pas de vie conforme à Christ, excusez. Alors, on voit que la semaine passée, on a vu cela. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en regarde ensemble ce deuxième thème, Christ, notre modèle. Et si on veut un bon modèle, je pense qu'on ne se trompe pas avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est cet énoncé, pas d'unité s'il n'y a pas d'humilité. Et on va voir un troisième énoncé du voulant aussi vers la fin. Et là, je vois qu'il est 11h28. Alors, je ne sais pas si on va être capable de voir l'autre, mais à tous les cas, on va regarder celle-là ensemble. Vous savez, l'humilité, c'est une drôle de patente. C'est quand on pense qu'on l'a, qu'on ne l'a plus, premièrement, c'est toute pensée que vous êtes un, vous venez de la perdre. Mais j'ai accordé dans le dictionnaire, en fin de compte, que c'est quoi l'humilité? Quand on la regarde, là, on voit Éphésiens, pas Éphésiens, mais Romains 12:3, hein, quand il dit « Ayez une juste estimation de vous-même ». Bon, ça veut dire qu'on ne se descend pas, qu'on ne se lève pas, mais on a une juste estimation de qui on est vraiment. C'est très difficile à cause de notre cœur qui nous emmène d'un penchant contraire à nous regarder vraiment, réellement tel que je suis. Et on a lu des citations cette semaine qui nous disaient « La chose la plus difficile pour un être humain, c'est de faire face à la réalité. » C'est très difficile pour nous de faire face à la réalité. Donc, on essaie d'avoir une opinion humble de soi-même, une juste opinion. On va nous dire aussi, c'est aussi un sens profond de sa petitesse morale. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Nous voulons dire savoir que nous sommes tous avec des natures pécheresses et lorsqu'on arrive devant le trône de grâce, de savoir qu'on ne dépasse pas Dieu, qu'on est encore en train de lutter contre le péché, qu'on a encore à confesser nos péchés, qu'on a encore à combattre contre ce péché qui si facilement nous enveloppe. Donc, un sens profond, là, que dans mon cœur, qui est une usine, comme Calvin disait, de bons et de mauvais désirs, il sort toutes sortes de choses de notre cœur, toutes sortes de choses. Et avoir un sens profond de notre petitesse face à notre nature pécheresse, on est plus alerte en ce qui concerne la gravité et l'étendue du péché dans ma vie, dans nos vies. Un troisième sens, c'est, on parle de modestie, d'humilité, être humble d'esprit. Et si nous cherchons un modèle, Jésus est le bon modèle, comme on vient de lire dans Philippiens. Vous savez, le chapitre 2 va nous dire, « Ne faites rien qui conduit à la division. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un exercice assez difficile. Et il faut savoir que l'esprit de parti, Galate, lui, va prendre le mot « hérésis » dans Galate 5, 19, qui va nous parler des divisions. Et c'est très difficile d'être de ceux qui n'épousera pas des causes. On est des gens qui aiment les causes. Il y a des causes qui vont honorer Dieu, il y a des causes qui vont déshonorer Dieu. Et c'est pour cela que la gloire de Dieu est attachée, dans le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, parce que la gloire doit toujours appartenir à Dieu lorsque nous sommes en train de faire les choses, de dire les choses, de penser les choses, c'est d'avoir des pensées qui est selon Dieu. D'ailleurs, Philippiens 4:8 va nous donner cette belle règle, hein? Ne faites rien dans vos pensées, tant que tout ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est une guerre que j'ai en dedans, une guerre qui est dans mon propre cœur, méchant et tortueux par-dessus tout, et je dois me rendre à l'évidence que l'apôtre Paul, qui dit à cette église de Philippe qu'il aime terriblement, attention, cette église est menacée, cette église a pris une direction et l'exhortation à la paix, l'exhortation à la réconciliation, Paul va la mettre à cette église et il va rappeler qu'ils sont citoyens des cieux. Il va leur rappeler leur modèle suprême, qui est Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ça, c'est encore quelque chose qui est difficile pour moi. Pour nous humains, considérer l'intérêt des autres, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que j'ai des intérêts, j'ai un agenda, j'ai des idées, j'ai des projets. Mais il faut toujours se rappeler que Dieu aussi a des projets. Puis laissez-moi vous rappeler que le premier projet que Dieu a, c'est vous-même, moi-même. Le premier projet de Dieu dans ma vie, c'est mon propre cœur, c'est ma propre personne, c'est ma propre vie. C'est le premier projet de Dieu. Me transformer de gloire en gloire à l'image du Seigneur. D'être de ceux qui ressemblent à Jésus. Et je lisais une histoire d'un gars qui faisait naufrage, puis il nageait, puis il arrivait sur une île, puis il s'est réveillé sur l'île. C'était tous des Jésus qui habitaient sur l'île. Et là, il commence à conter toute l'histoire, comment que la vie était sur ces îles-là. Puis d'un coup, il s'est réveillé. C'était rien qu'un rêve. C'était pas vrai. Alors, on peut voir que lorsqu'on parle de ceux qui considèrent les intérêts des autres, aussi des nôtres, va toujours viser vers la gloire de Dieu. Va toujours être, est-ce que Dieu va être glorifié dans ma vie lundi matin lorsque je vais aller travailler à l'usine? Lundi matin, lorsque je vais être à l'école. Lundi matin, lorsque je vais être avec ma famille. Est-ce que mes actions, mes pensées, ma manière de parler va contribuer à la gloire de Dieu? Et c'est pour cela qu'il faut être de ceux qui agissent toujours, toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est tellement simpliste, cette phrase-là. Gardez les yeux sur le Seigneur. On dirait que c'est devenu comme une petite phrase magique, garder les yeux sur le Seigneur. Mais c'est plus que cela. Garder les yeux sur le Seigneur, l'avoir comme modèle, Christ notre modèle, c'est que dans ma vie quotidienne, je travaille fort et je fais des efforts afin de ressembler à Jésus, peu importe les circonstances qui arrivent dans ma vie. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est un combat et je dois en partant savoir que je dois marcher humblement devant Dieu. Être humble attire la grâce de Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, fait en sorte qu'on peut marcher dans notre vie quotidienne, environné de sa grâce. Vous savez, il y a un beau petit mot dans le Nouveau Testament, à l'Éléon, qui paraît 100 fois. Non, je ne féliciterai pas les 100 fois, là. N'ayez pas peur. Mais Romains en 7:1, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, regardez bien, pour sa gloire. » 1 Corinthiens 16:20, « Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, comme qu'il faisait au 4e siècle. » Et je ne le mentionnerai pas, j'ai lu tout ça, comment ça se faisait, c'est vraiment étonnant. Si vous pensez qu'un saint baiser, c'est comme vous faites aujourd'hui, vous vous trompez. Les saints baisers dans le temps, savez-vous comment ça se faisait? Les anciens arrivaient en avant, puis ils se donnaient tous un saint baiser devant tout le monde. Ensuite, les femmes mariées allaient sur un côté, puis se donnaient un saint baiser. Les célibataires filles allaient sur un côté, se donnaient un saint baiser. Les célibataires garçons allaient sur un côté, se donnaient un saint baiser. Voyez-vous comment c'était fait? Et là, l'assemblée était ensemble dans la prière. Il y a aussi Galates 5, 15 qui nous dit ceci. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous détruisez les uns les autres. » Les uns les autres, 100 fois, pardonnez-vous les uns les autres. Ayez une bonne communion fraternelle les uns avec les autres. Soyez compatissants les uns avec les autres. Soyez miséricordieux les uns avec les autres. Les uns les autres est omniprésent dans le Nouveau Testament. Et c'est pour cela que lorsqu'on arrive pour vivre ensemble, on a un travail sérieux à faire afin d'avoir une vie qui va refléter les traits de caractère du Seigneur Jésus. Et cela, mes amis, c'est une vie entière. C'est une vie de repentance. Une vie où on doit pardonner. Une vie où on est gracieux les uns envers les autres. On a fini d'être intransigeants les uns avec les autres. On est de ceux qui sont miséricordieux, qui sont compatissants. Et c'est ce que Paul va nous rappeler. Quatre composantes de l'unité dans Philippiens 2. Même pensée, même mentalité, même comportement. Vous savez, on se dit tous chrétiens, on se promène avec des grosses bibles usées, là, puis on apprend des versets par cœur, puis... Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une même pensée? Sais-tu, on est-tu des photocopies exactes de l'un l'autre? Non. Vive la diversité. Je suis bien content, je dis ça à ma femme. Vive la différence. Avoir une même pensée, c'est d'avoir un même comportement, un même modèle qui est Christ, un même but qui est Christ, une même toute suffisance qui est Christ. C'est d'avoir une mentalité, un comportement. C'est ça qui fait l'unité. Une même mentalité, une même amour, hein, l'agapéo, cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Une même âme. Et ça, c'est intéressant, c'est au pluriel. C'est un paquet d'âmes qui fait un. C'est un paquet d'âmes en train de grandir ensemble. Il dit aux Philippiens, encore le même mot phronéo, il dit une même pensée, participe présent actif, qui dit, et Darby et Colombe le traduit comme faux, les autres l'ont saboté un peu, mais qui dit en pensant à une seule chose. On s'en va vers une seule chose. Christ, notre modèle. Et quand les hommes ont plus d'importance que Dieu, on perd notre modèle qui est Christ. Vous lirez le livre en passant, là. C'est un titre de livre que Impact a traduit. Très bon livre. Alors, on pense une seule chose. C'est ça que ça ressemble à ça, l'unité. Vous voulez savoir ce que cette division? Pensez le contraire. Une mentalité de haine, d'agressivité, de calomnie puis de médisance. Entretenir de la rancune, de la haine. Se voir séparé des autres. De ne pas avoir un même but ensemble. Et c'est ça qu'on appelle la division. L'unité produit 6 choses, selon Philippiens 2, 1 et 2. Ça produit, 1, la consolation, c'est-à-dire un réconfort en Christ. Un soulagement dans l'amour. Ça produit une communion d'esprit, un partenariat. On est partenaire avec Dieu. On n'est pas en compétition l'un avec l'autre. On est des partenaires. On est ensemble. Sim, on est unis ensemble dans les projets, dans la vision pour glorifier Dieu dans nos vies et notre assemblée. L'unité produit la compassion. La pitié qui conduit à l'action. Et 4A, la miséricorde, sont attachés ensemble. Éprouver un sentiment ardent de pitié qui conduit à l'action. On sème de tout notre cœur. Dans l'original, c'est marqué les tripes, là, mais nous autres, on ne comprend pas ça, les tripes. Je t'aime de toutes mes tripes, c'est pas trop romantique. Tout notre cœur. Tout notre cœur. L'unité produit ces choses-là. L'unité produit une joie qui résulte d'une vie selon le Saint-Esprit. Et le plus grand combat de notre vie, on l'avait dans l'examen hier, Lucie, le plus grand combat de notre vie, savez-vous ce que c'est? C'est lorsque le Saint-Esprit veut quelque chose et moi je veux d'autres choses. Nos deux volontés se frappent. C'est le plus grand combat de ma vie. Ce que moi je veux et ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut dans ma vie. Nous avons ce combat. Et c'est pour cela qu'il faut regarder à Christ, notre modèle. Et la parole nous parle. La parole nous parle en ce qui concerne nos paroles, notre caractère, nos traits de caractère. Nous parle à propos de nos œuvres qu'on fait, qui c'est des œuvres qui doivent être dignes de la repentance. L'apôtre Paul, dans 3:17, c'est pour ça que j'ai demandé pour lire 3:17, c'est un super beau verset. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Quel modèle est-ce que les gens voient en nous? Paul est en train... Il se pète dessus les bretelles, Paul? Non. Parce que Paul avait comme modèle Christ, n'est-ce pas? Puis il va dire dans Philippiens 4:9, « Écoutez, regardez là, la manière que j'ai été parmi vous, les choses que j'ai dit en public, les choses que j'ai dit en privé, la manière que j'ai agi, ce que vous avez appris de moi, vous avez reçu de moi, vous avez entendu de moi, en Philippiens 4:9. Il dit à cette église de Philippe qu'il aime, là, imitez Christ en moi, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 10, 32, 11 et 2. L'apôtre est en train de nous dire ici et dire aux Philippiens, « Philippiens, regardez la manière que j'ai fait mon œuvre parmi vous. Imitez Christ en moi, lorsque moi j'imitais Christ. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez appris des choses. Vous êtes maintenant, vous aussi, un modèle. » Et vous pouvez dire à quelqu'un, « Imite Christ en moi. » Mais lorsque j'arrête d'imiter Jésus-Christ, « Imite-moi plus. » C'est assez québécois, « Moi plus. » Et c'est là qu'est l'affaire. Et c'est là qu'est notre combat. C'est là qu'on a chacun ce même combat. Être un modèle. Un modèle. Quelle pression! Hein? Un modèle. Un exemple, une manière de vivre, une manière de parler, une manière d'agir qui honore Dieu et qui glorifie Dieu. Pas rien que le dimanche matin à 10h30 ici à l'Assemblée. Là. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, voyez-vous? On pourrait passer au moins 5-6 minutes sur chaque, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça notre grosse bataille? Le gros combat? Vous savez, quelqu'un va arriver ici à la table du Seigneur, là, puis il va ouvrir la Bible, là. Il va dire, le sang précieux de Jésus-Christ ne nous sauve pas de tous nos péchés. Il faut faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Moi, j'ai pas peur de ça pantoute, un gars de même. Vous autres? Ça vous-tu vous mêler, ça? Comprenez-vous l'idée? Mais ma responsabilité d'être un modèle, ma responsabilité d'imiter ceux qui imitent Jésus-Christ, c'est une pression saine chez nous, parce que c'est un combat continuel. Christ est notre exemple. Puis, dites pas, puis je le sais, oui, mais c'est Jésus, il était Dieu, il pouvait bien faire ça. C'est facile pour lui. Il était un vrai homme. Par avoir le temps de faire tous les évangiles, on pourrait voir que le Seigneur il a été déçu, il a pleuré, il a sûrement ri aussi, hein, même si ce n'est pas écrit. Il avait des émotions. Il y a même de l'angoisse dans le jardin de Gethsémani. Regardez bien, là. Lui qui n'a point commis de péché, on est d'accord? Il n'a point, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ce n'est pas un menteur. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure. Maltraité, ne faisait point de menace. mais s'en remettait à celui qui juge justement. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans? Nous qui portons le nom de chrétiens, il y a une satisfaction charnelle à répondre à ceux qui t'injurent. Il y a une satisfaction charnelle à maltraiter ceux qui te maltraitent. Il y a une satisfaction charnelle à menacer quelqu'un qui te menace. Mais ça n'en aura pas Dieu. Ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a donné. Il y en a même qui vont dire, ces sortes de personnes-là, là, c'est des faibles. C'est des incompétents. C'est du monde qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de couilles. Bien, vous dites ça de Jésus. Pensez-vous qu'il n'aurait pas pu appeler une légion d'anges pour le défendre? Voyons donc. Notre modèle n'est pas un modèle du monde. Le modèle de l'Église, ce n'est pas une industrie. Le modèle de l'Église, c'est Christ, notre modèle. Il faut tous revenir au pied de la croix. Je vais arrêter là. On n'aura pas le temps de faire, c'est trop tard. Pas de joie s'il n'y a pas d'obéissance. Dieu voulant, une autre fois, je vais aller plus loin là-dedans. Mais mon point ce matin, là je m'en vais à ma prière, naturellement. C'est un beau cantique, Will, l'avant-deuxième. J'ai bien aimé la strophe, là. C'était merveilleux. Mais à cause du temps, puis à cause qu'on veut vraiment terminer, on ne pourra pas le faire, vu qu'on ne le sait pas tous. Christ, notre modèle. Vous savez, je ne pense pas qu'on va finir de travailler sur nous-mêmes, de notre vivant. Je ne pensais pas, je suis en train de dire, d'être tous des petits Jésus dans deux semaines. Là. Mais à quelque part, là, si on y met, par la grâce de Dieu, l'humilité, la repentance, le pardon, au moins on va avoir une odeur de grâce. Un autre livre que je vous recommande, Nos relations, des bénédictions compliquées. Ça vient de sortir, ça fait deux semaines. Paul David Tripp, c'est mon auteur favori, avec Timothy Lane. Je vais vous lire ceci. La grâce laisse derrière elle un parfum d'humilité, de compassion, de sacrifice, de joie, de patience et de plusieurs autres qualités semblables. La grâce laisse ça. Une autre citation à page 190. Une relation sans miséricorde évolue en dehors des cadres bibliques. N'oubliez jamais ça. C'est le principe. C'est une grande citation, mais je vais dire que ça. Je vais vous inviter encore. C'est la dernière fois. Puis si je reviens la semaine prochaine, on va chanter encore, je pense. Mais je vais vous inviter à vous lever debout. Vous savez, Dieu nous voit. Vous savez, moi, ce n'est pas la toune, hein? C'est les paroles. Et ça, c'est pas une chanson, là. C'est une prière. Êtes-vous d'accord? S'il vous plaît? Oui. Vas-y, Will.
Semblé Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus qu'à toi. Tu ressembles, Jésus. C'est mon espoir suprême. Dans ton esprit en moi, toi. Garde-moi.